Bonsoir.
Ouais, c'était synchro. Ouais. Donc, nous sommes le mercredi 13 janvier. Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, Goodyear, mauvaise, très mauvaise nouvelle pour les luttes syndicales.
Ensuite, on va parler d'expulsion collective des bidonvilles de l'agglomération lyonnaise.
Quelques conséquences de la guerre en Syrie.
Ensuite, on va parler des manœuvres gouvernementales contre la transparence fiscale.
Presse, un petit quelque chose sur la liberté de ton.
Ensuite, on va parler des Anonymous qui lancent une opération contre le gouvernement turc.
Plein de manières différentes de présenter ses vœux, des manières plus ou moins onéreuses selon si vous êtes, qui vous êtes.
Ensuite, on va parler d'élite faciès. Et ensuite, on va passer à la rubrique.
Il faut que ça se sache.
Et on finira par un agenda.
Mais ils n'étaient pas si nombreux que ça, sinon on aurait pu attaquer la punition, c'est sûr. On aurait été assez nombreux pour les attaquer. Pour les attaquer et les repousser.
Et donc, des mauvaises nouvelles pour les anciens salariés de Goodyear. Donc, les 8 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord ont été condamnés à 9 mois de prison ferme pour la séquestration durant 30 heures en 2014 de deux cadres dirigeants de cette usine qui a fermé en 2014. Donc de la ferme pour des personnes qui ont lutté contre la fermeture de leur usine. Ce qui est quand même assez hallucinant. Donc les militants accusent le coup d'une décision qui en dit long sur l'état de rapport de force dans le pays entre dirigeants et travailleurs. Une première alors que les cadres séquestrés de l'entreprise avaient retiré leur plainte. Le prétexte de la séquestration cache mal une volonté de criminaliser l'action syndicale. Donc les patrons de l'usine de production de pneus agricoles Goodyear, promise à la fermeture en juillet 2013, allaient laisser 1173 travailleurs sur le carreau. Durant 6 ans, les projets de restructuration et le manque d'investissement dans l'outil de production avaient été combattus et dénoncés par la CGT. À la fin 2013, les salariés ont décidé de bloquer les stocks de l'usine, ne laissant ni rentrer ni sortir aucun pneu du dépôt, afin de mettre une pression supplémentaire sur la direction pour qu'elle regagne la table des négociations. Donc je refais l'histoire là, mais pour dire où ça en était, vous voyez là, je raconte une lutte syndicale un peu comme elle est toujours, que si les salariés mettent pas la pression avec leur outil de travail sur le patronat, et les dirigeants n'acceptent jamais rien. Donc en janvier 2014, la direction du site consent à rencontrer les salariés et leur organisation syndicale. Mais je cite, « Nos questions sont restées une nouvelle fois sans réponse », racontait à l'époque Franck Jurek, élu CGT et secrétaire adjoint du comité d'entreprise. Si bien que, donc, à force qu'on les prenne pour des cons, et ben le 6 janvier à 10h30, les 200 salariés de l'équipe de nuit présents sur les sites n'ont pas laisser repartir le directeur de la production, Michel Dehi, ni le directeur des ressources humaines, Bernard Glesser. Une décision sans préméditation parce que à force de se faire... donc là, ils avaient fait une nuit de négociation qui n'avait rien donné. Les dirigeants ne voulaient pas lâcher l'affaire, donc ils ont un peu craqué, quoi. Ce qui est bien normal dans leur cas. Donc l'objectif revendiqué à l'époque était d'obtenir des conditions de départ dignes. Alors je recite à nouveau, c'est-à-dire avec plus que les 20 000 euros que nous proposait la direction. Donc toujours Franck Jurek. Et quant à lui, Michael Vammen, responsable de la CGT Goodyear et un des 8 condamnés, on s'était jamais battu pour de l'argent, car avant on se battait pour du travail. Au bout de 30 heures, les deux cadres étaient ressortis, laissant les salariés sans garantie d'obtenir de meilleures indemnités. Et même si les cadres avaient commencé par porter plainte, le directeur de la production reconnaissait qu'il n'y avait pas eu de comportement qui avait porté atteinte à leur intégrité physique. Donc voilà, ils ont eu 9 mois de prison, je veux dire, en ayant mis la pression à leurs dirigeants, mais sans les avoir du tout molestés. Donc voilà, le juge a montré une forte solidarité de classe avec ses deux chefs, puisqu'il a condamné donc à 9 mois de ferme. qui se sont battus donc pour garder leur taf et pour avoir des indemnités. Et ce procès va aussi faire date dans l'histoire syndicale contemporaine et donner le message aux patrons qu'ils peuvent piétiner les salariés et que s'ils tentent de protester, l'arsenal judiciaire nous attend au tournant. Rien de neuf dans ce monde de merde.
Et on va continuer sur la thématique monde de merde, puisque mardi matin, une opération de police conjointe a expulsé les bidonvilles de Vaux-en-Velin, qui se situait rue Jacquard, de Saint-Priest, rue du Dauphiné, et de Villeurbanne, qui se situait La Fessine. Enfin, stratège Del Puech, et malheureusement c'est pas celui qui est mort, a décidé d'expulser les trois principaux camps pour éviter que ceux qui s'y trouvent, et qui se retrouvent bien dans la merde trouvent refuge dans un autre bidonville. Alors comme le dit le préfet, tout ça a été fait en toute humanité et fermeté.
Bon. Humanité.
Côté, ouais, c'est ça. En tout cas, on va commencer par le côté fermeté. Effectivement, les familles ont été servies. Se fait réveiller par...
finir par le côté humanité.
Ouais, c'est le moins gros, hein, vous verrez. Se faire réveiller par les bleus au petit matin, avoir quelques minutes pour pouvoir récupérer ses affaires, se voir parquer derrière un bandeau de rubalise. On imagine que le préfet ne met pas ça du côté de l'humanité, bien qu'on puisse en douter malgré ses déclarations. Je cite, sur ces trois sites, nous avons recensé environ 400 personnes qui vivent dans des conditions de salubrité déplorables. J'ai voulu donc mettre fin à cette situation indigne de la République. Karenko avait exactement le même argumentaire. Alors certes, le préfet a mis en place un programme d'insertion appelé I2E, dont 110 personnes bénéficient. Le revers de ce programme, c'est que les familles ne doivent pas être connues défavorablement des services de la police. Par exemple, se faire choper pour de la ferraille qui a été prise dans une déchetterie, ça compte comme être défavorablement connu des services de police. Et doivent s'engager à ne plus mendier. Il faudra donc aux familles bénéficiant de ce programme faire le dos rond en permanence avec les travailleurs sociaux et autres intervenants pour prouver que ce sont de bons citoyens et qu'ils méritent autre chose qu'une cabane en bois ou un bungalow d'insertion. C'est donc pour 110 personnes, mais pour les 250 expulsés, c'est 4 personnes qui ont été conduites directement au centre de rétention de Saint-Exupéry, 25 qui ont reçu une OQTF et 208 qui ont des nuits d'hôtel. Et quand on dit nuits d'hôtel, il est fort à parier que dans 3 jours, tout ce petit monde finira de nouveau à la rue. Alors le préfet insiste là-dessus, et là je cite de nouveau, « La vraie réponse pour les Roms est en Roumanie. Ces personnes sont mises à l'abri de façon temporaire, leur vocation est de rentrer en Roumanie. » Avec Del Puech, la méthode est donc simple, on expulse tout le monde le même jour, on met les gens en hôtel pour bien savoir où ils sont, et on finit par organiser un charter en bus direction la Roumanie. À beau y regarder à la loupe, on voit pas bien le côté humanité.
Et voilà les conséquences de la guerre en Syrie. Et on ne le répétera jamais assez dans notre journal du mercredi à Canu. C'est une chose de pleurer les morts des attentats sur le territoire français. C'en est une autre de s'intéresser aux morts des guerres ou du colonialisme dans d'autres pays. Donc nous allons donc une nouvelle fois parler de la Syrie, et comme préambule, je voudrais rappeler que c'est à partir de 2011 qu'il y a eu une énorme mobilisation pour chasser Bachar el-Assad du pouvoir, et cela a entraîné des affrontements, puis une guerre civile, des millions de morts, de l'armée libre, des rebelles, de civils. Et actuellement, ce sont des centaines de civils qui sont retranchés dans la ville assiégée de Madaya. Plusieurs dizaines sont déjà morts de faim. Des organisations humanitaires tentent de négocier une évacuation. Et la ville n'est pas un cas isolé, puisque 400 000 civils sont assiégés et sont en danger sur l'ensemble du territoire syrien. Le régime d'Assad a mis en place et généralisé une stratégie insidieuse et absolument infecte d'empêcher les ravitaillements dans des territoires afin de laisser mourir la population. Voilà le mec au pouvoir qui décide de séquestrer sa population. Si ça, c'est pas mégalo, voilà, ça fait quand même flipper d'avoir des gens comme ça au pouvoir. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est bien ça le problème. Donc dans cette ville rebelle de Madaya, dans la province de Damas, le siège dure depuis 6 mois. Vous voyez, ça n'est pas depuis 3 semaines et ils disent « oulala », c'est que là, le signal d'alarme, il est fort et international aussi, parce que ça fait 6 mois que les gens ils sont dans la galère à chercher ce qu'ils peuvent manger dans leur ville, puisque c'est assiégé. Donc cette ville comporte 42 000 habitants. Et ce siège est hermétique. C'est un siège hermétique de l'armée. C'est pas genre on laisse un peu passer des choses. C'est bloqué, bloqué.
Bloqué, ouais.
Et la situation n'est pas tenable. Alors selon des témoignages, le lait coûterait actuellement jusqu'à 300 dollars la boîte. Donc plein de nourrissons seraient nourris à l'eau et bouillis et au sel. Les adultes mangeraient de l'herbe et des feuilles restantes des arbres. Et pas mal de gens s'évanouissent régulièrement dans les rues, puisqu'ils meurent de faim. Vous voyez, si ça fait plutôt envie de pleurer, c'est pas très drôle. Et comment continuer? Parce que je voulais élargir un petit peu. Donc oui, redire que c'est donc là, Madaya, ça coûte, c'est des centaines de personnes, mais c'est 400 000 civils en Syrie. Et du coup, la coordination humanitaire de l'ONU, le coordinateur, pardon, Yacoub Elio, s'inquiète vraiment. Et une énorme pression internationale s'est mise en place depuis un moment. Et ça fait que lundi, ils ont ouvert à 21 camions de pouvoir venir dans la ville. Donc, ce qui est pas fou, ce qui est pas du tout suffisant, mais qui est déjà ça, parce qu'il y a quelques personnes qui ont pu être aidées. Et aussi également les villes de Foua et de Kafraïa, deux autres localités chiites qui sont encerclées à plus de 300 km de Damas, et où là, 21 camions d'aide sont aussi entrés lundi. Ces localités sont sans eau potable, sans électricité et sans nourriture. Et pendant ce temps-là, les forces d'Assad sont plutôt contents, puisqu'ils sont arrivés à lever le siège et donc qui font reculer les rebelles petit à petit sur le territoire grâce à l'aviation russe qui les aide de beaucoup dans cette mission.
Alors, les Anonymous lancent l'opération Hop Turquie contre le gouvernement turc.
Mais dis donc, est-ce que tu te précipiterais pas pour parler alors que c'est pas encore à ton tour?
Ah mais ouais, complètement. Vas-y, c'est à toi.
Il me semblait aussi. Bon, en tout cas, pour celles et ceux de nos auditeurs qui suivent de près l'actualité parlementaire, là, c'est le moment de prendre 5 minutes de pause, parce que vous êtes peut-être déjà au courant de cette histoire. Pour les autres, dont je soupçonne que parmi les gens qui écoutent Canu, vous soyez peut-être en majorité, on va remonter dans le temps. C'est une histoire qui se passe il y a un mois, et elle montre à quel point Valls était sincère quand il déclarait « j'aime l'entreprise », et comme il aurait pu ajouter, tant qu'il y était, « j'adore les patrons voyous ». Alors c'est un moment où une poignée de députés a failli pousser l'État français à satisfaire une vieille revendication de transparence fiscale, qui est une revendication qui a été pas mal portée par des ONG. Et là, en l'occurrence, pour vous raconter cette histoire, je me suis beaucoup servi d'un communiqué de presse de l'association Survie, qui est une asso qui lutte contre les saloperies que fait la France en Afrique, mais ces saloperies passent aussi beaucoup par des montages financiers. Donc voilà, au moment où des députés étaient en train de presque arriver à acquérir un petit truc en termes de transparence fiscale, le gouvernement, donc notre gouvernement, a manœuvré un peu assez adroitement quand même pour torpiller cette avancée qui aurait pu être historique quand même. Et il a et alors voilà. Donc la société civile se bat depuis plus de 10 ans pour obtenir que les multinationales aient l'obligation de publier des informations qui permettraient de traquer des montages juridiques légaux ou plus ou moins légaux, etc., mais en tout cas d'évasion fiscale. Donc pour ça, il faudrait que les entreprises soient contraintes à publier leurs chiffres d'affaires, les bénéfices, le nombre de salariés, les impôts qui sont payés, tout ça, et tout ça dans chaque pays où l'entreprise aurait au moins une filiale. Face à la pression croissante des ONG, les autorités ne peuvent plus s'opposer ouvertement à cette mesure qu'on appelle mesure de reporting pays par pays, qui est en plus une mesure relativement simple à mettre en œuvre. Et donc, ce qui reste comme débat entre les hommes politiques qui s'intéressent à ce truc-là, c'est, euh, c'est le débat sur la publicité de ce reporting, c'est-à-dire soit l'option de rendre public, de rendre complètement publiques toutes ces informations, pour que des associations, des journalistes ou même des citoyens, en tout cas pour que tout le monde en réalité puisse chercher à voir ce qui cloche dedans et quelles saloperies font les entreprises avec leur, enfin, en termes d'évasion fiscale en l'occurrence. Soit, plutôt que de faire ça, de rendre ça public, de n'exiger que ces données, de n'exiger ces données que pour les administrations fiscales. Et donc ça serait partir du principe que les administrations fiscales sont à même de lutter efficacement contre l'évitement de l'impôt, ce qui est déjà complètement faux évidemment dans les pays en développement, mais ce qui en réalité est aussi faux en France du fait déjà tout simplement de manque de moyens du fisc. Et puis en plus, de toute façon, moins les choses sont publiques et plus c'est relativement fastoche de se mettre quelqu'un dans la poche, un fonctionnaire par-ci, un bureaucrate par-là, et de faire en sorte que les choses passent à la trappe. Donc ceux qui tiennent à cette confidentialité, alors eux, ils parlent de crainte pour la compétitivité des entreprises françaises. Et alors, il semble qu'ils considèrent que ça va être un problème de compétitivité parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et il va falloir payer des salariés pour compiler toutes ces données dans le but de les publier. Et donc que ça va être un handicap face aux entreprises concurrentes étrangères qui, elles, n'auraient pas à faire ce truc-là. Bon, tout ça, bien sûr, c'est alors, bon, déjà, ça a l'air complètement idiot, hein, puisque si ça coûte du fric de rassembler les infos, c'est pas le fait de les rendre publiques qui coûte du fric. Puis une fois qu'elles sont rassemblées et qu'on peut les filer à des ministères, on peut aussi bien les mettre sur Internet, ça coûte un clic de plus. Et en plus, alors, Survie trouve que ça serait un truc où le gouvernement français pourrait comme montrer l'exemple et que d'autres gouvernements pourraient suivre, et cite à l'appui de ça des exemples de moments où ça a marché à peu près. En tout cas, là, c'était des députés de Europe Écologie Les Verts et certains députés du PS qui avaient déposé des amendements qui visaient à introduire ce reporting pays par pays public. Et ces députés savaient qu'ils allaient à l'encontre de la volonté du gouvernement, gouvernement qui s'était d'abord planqué derrière les députés socialistes Karine Berger et Valérie Rabault, qui, elles, avaient fait introduire un projet de loi de reporting non public dans le projet de loi de finances 2016. Pardon. Et donc, mon histoire se passe dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre dernier, au moment où le gouvernement a finalement décidé de s'opposer frontalement à un amendement donc de reporting public qui avait été déjà voté à l'Assemblée 10 jours auparavant, ensuite supprimé par le Sénat, et puis réintroduit dans le nouvel examen du plan de loi, blabla, finance, blabla. Alors, le gouvernement. Du coup, pendant cette nuit, c'est Christian Eckert, qui est le secrétaire d'État au budget, qui a été à la manœuvre. Lui, il a réalisé à un moment de la nuit qu'il n'avait pas. C'était déjà trop tard pour empêcher une poignée de députés de faire voter une nouvelle loi, une nouvelle fois cette obligation de transparence pour les multinationales françaises quant à leurs montages fiscaux. Du coup, il a utilisé une des armes que lui procure le droit français, alors pas l'article 49.3, parce qu'en réalité c'était trop tard à ce moment-là, le truc avait été déjà voté, mais tout simplement la demande d'une nouvelle délibération, qui donc, une nouvelle délibération, en principe elle est exactement aussi, elle fonctionne exactement comme la première, comme le premier vote, mais du coup dans la soirée il dit non, mais il faut qu'on en reparle, et donc il a le pouvoir d'exiger que ça soit à nouveau délibéré.
N'importe quel député peut faire ça ?
Alors là, en l'occurrence, c'est le secrétaire d'État au budget, c'est un ministre. Pour ne pas se laisser une nouvelle fois déborder, le ministre, à ce moment-là, demande une interruption de séance. Il dit 5 à 10 minutes, le temps d'aller imprimer des trucs. Alors bon, il se barre. Bon, en réalité, 5 à 10 minutes, ça dure quand même 40 minutes. Et puis, il organise la riposte. La riposte consiste, dans un premier temps, a proposé aux députés socialistes de relever les seuils, c'est-à-dire le chiffre d'affaires et le nombre de salariés, au-dessus duquel les entreprises seraient concernées. Donc, normalement, c'est que les grosses entreprises qui payent, et lui, il voulait que la taille des entreprises à partir... pas qui payent, pardon, qui doivent rendre leurs données publiques, et lui, il voulait qu'il discutait sur à quel point grosses devaient être les entreprises. Mais en fait, ce marchandage, a priori, n'était qu'un prétexte pour gagner encore un peu plus de temps, parce que cette suspension de séance a surtout permis de faire le ménage dans les rangs des députés. Et alors voilà ce qui s'est passé, c'est que 5 députés socialistes qui avaient voté pour la transparence ont quitté l'hémicycle avant la nouvelle délibération. Ils avaient autre chose à foutre, ils se sont barrés. Le député de l'Hérault, Sébastien Danaja, alors lui, pour sa part, c'est aussi un social. Lui, il a juste retourné sa veste pendant la délibération. Finalement, il a décidé de soutenir le gouvernement et trouvait que non, en fait, ça puait que ça soit public. On a ensuite encore des députés socialistes, Jean-Louis Dumont et François Pupponi. Alors eux, ils étaient absents au début du débat. Et puis, paf, hop, comme ça, en plein milieu de la nuit, ils débarquent dans l'hémicycle. À l'issue de la suspension de séance, quand je dis en plein milieu de la nuit, c'est vers 1h du mat, et là, ils soutiennent le gouvernement dans sa lutte donc contre la transparence. Alors, du côté d'Europe Écologie Les Verts, les 7 députés... Les 7 députés sur les 18 que compte le groupe sont restés en place et fermes sur leur position, mais sans être rejoints par leurs camarades. Du coup, eux, ils étaient 7 au début, ils sont restés 7. Europe Écologie Les Verts, ils n'ont pas bougé. Quant au groupe Front de Gauche, alors eux, un peu plus tôt dans la journée, ils avaient bien rappelé que le combat contre les paradis fiscaux, c'est pas seulement un combat financier, c'est avant tout un combat d'ordre démocratique, etc., etc. Bon, eux, les députés Front de Gauche, ils étaient juste pas là. Ni au début, ni à la fin. Du côté des Républicains, il y en avait 5 qui étaient présents au début. Attention, on parle de l'Assemblée où normalement il y a 577 députés. Donc du côté des Républicains, il y en a 5 qui étaient présents au début. Il n'y en a que 1 qui avait voté pour la transparence. Et lui, bon, bah, il est parti entre les 2 votes, hein, lui aussi. Et donc ses collègues qui ont été opposés à la transparence sont restés pour maintenir leur vote. Les députés FN, est-ce qu'ils auraient choisi l'honnêteté, la vertu, ou je sais pas quoi, parce que quand même c'est ça le Front National, tête haute et main propre, ou est-ce qu'ils auraient choisi l'industrie de la France, comme ça, et qu'elle reste compétitive et tout ça?
On a nos petites idées là, je crois.
Ouais, on a notre petite idée, mais de toute façon, on n'en aura jamais la confirmation, parce que FN Front de Gauche, même combat, ils avaient vraiment autre chose à foutre que d'être à l'Assemblée Nationale. Donc voilà, eux ils comptent pas. Et donc, vers 1h du matin, le miracle mathématique s'est accompli. Voté pour la première fois à 28 voix contre 24. Donc, sur un total de 577 députés qui s'ils faisaient leur boulot, s'ils faisaient les trucs pour lesquels, j'allais dire, on les a élus, en tout cas, pour lesquels certaines, peut-être, parmi nos auditeurs, les ont élus, eh ben, ils auraient dû être là. Et donc, non, 28-24, si je compte bien, ça veut dire qu'ils étaient 52. Donc un peu moins de 10%. Donc cette mesure a été votée une première fois, la mesure de transparence a été votée une première fois par 28 voix contre 24, puis retoquée finalement par 25 voix contre 21. Et voilà, rappelons juste que le matin précédent, dans la matinée, le gouvernement avait encore rappelé sa détermination à lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale.
Alors, et ben cette fois-ci, les Anonymous lancent leur opération Hop Turquie contre le gouvernement turc, en représailles donc à leur soutien envers Daesh. Alors, une première attaque massive DDoS a eu lieu contre les principaux serveurs DNS turcs. Ne criez pas, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Alors, on rappelle, une attaque DDoS vise à saturer un serveur en faisant comme si un immense nombre de personnes s'y connectaient simultanément. En gros, pour le principe, il y a un serveur DNS, c'est celui auquel vous vous connectez sans le savoir quand vous tapez, par exemple, dans votre barre de navigateur, là, rebellion.info ou n'importe quoi d'autre, hein, qui lui va transformer rebellion.info en 204.13.164.116. Beaucoup moins facile à retenir, mais si vous tapez la suite de chiffres que je vous ai donné, vous allez tomber également sur rebellion.info. Donc lui, il permet juste de traduire cette bascule un peu. Voilà, en gros, ça aura eu comme conséquence de ralentir fortement la navigation Internet en Turquie. Anonymous menace de s'en prendre aux aéroports, aux banques et aux militaires si la Turquie continue d'acheter du pétrole à Daesh. On imagine assez mal Erdogan arrêter d'acheter du pétrole pour l'instant à l'État islamique suite à un ralentissement de serveurs, mais en tout cas, on espère qu'ils vont continuer leurs opérations.
Alors, la presse en Suisse, donc c'est le quotidien indépendant Le Courrier, basé à Genève, qui est l'objet d'une double plainte, civile et pénale, qui est déposée par le magnat du pétrole Jean-Claude Gandur et sa holding AOG. Donc cet homme d'affaires qui est domicilié à Malte est collectionneur et est le partenaire de la ville de Genève pour le musée d'art et d'histoire. Et donc, il avait été reproché au Courrier, au journal Le Courrier, d'avoir rappelé dans un portrait paru en mai dernier le contexte dans lequel l'homme d'affaires suisse a bâti sa fortune. Donc le journal est accusé d'atteinte à la personnalité et le journaliste Benito Pérez de calomnie et de diffamation. Le classement de la plainte pénale contre Benito Pérez par le ministère public le 24 novembre dernier fait l'objet d'un recours des plaignants. Et donc le courrier maintient le contenu de l'article incriminé. Et donc, plutôt la posture du courrier, c'est de pas comprendre pourquoi Gandur, donc ce mec très puissant et riche, et choisit la voie judiciaire plutôt que de se défendre, de défendre son point de vue dans les colonnes du journal. Et il considère en outre avoir respecté la déontologie professionnelle, puisque donc le courrier rejette toute accusation d'hostilité de principe contre Gandur et sa société, mais s'estime dans son droit de porter un regard aigu sur le secteur du négoce et de l'exploitation des matières premières, surtout à l'heure où la Suisse mise gros sur ce domaine et où il serait regrettable que la presse soit muselée. Et aussi parce que ce gars, il participe à tout ce qui est les musées de Genève, là, et donc c'est une personnalité influente. Et donc, à partir de là, c'est important de connaître un certain nombre d'éléments sur lui, pas de son intimité, mais bien de sa vie professionnelle et politique, quoi. Donc la notion d'atteinte à la personnalité telle que retenue par le code civil ne doit pas devenir le prétexte à empêcher la publication d'informations d'intérêt public. Il en va de la liberté de la presse et du droit qu'a le public d'être informé.
C'est à qui ? Mais non, moi j'ai fini mes.
Ah, mais c'est à Yvan alors.
C'est à toi, Yvan.
Ah ouais ? Ok, et les vœux, c'est après alors.
Ouais, c'est ça. On a changé le fil d'info en cours d'émission.
De le dire à nous aussi, peut-être.
Alors voilà. En ce moment se tient le procès du flic qui a tué un gars qui s'appelait Amin Bentounsi. Alors, c'est une histoire qui remonte à 2012. Hein, en réalité, c'est pas vraiment de la bavure en elle-même qu'on va parler longuement, mais en tout cas, Amin Bentounsi n'avait pas regagné la prison après une permission. Il a été signalé devant un bar, les flics sont arrivés. Au moment où les flics sont arrivés, lui s'est enfui en courant. Un flic l'a poursuivi en voiture et là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Le flic est sorti, Amin Bentounsi est mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est mort, bon, il a été flingué par le flic, mais du coup, le flic dit que c'est de la légitime défense. Il y avait plusieurs témoins, personne n'a trouvé que l'autre était menaçant. Bref, on ne va pas vraiment s'attarder là-dessus. Et par contre, on va vous raconter l'article de l'UMA qui raconte un petit truc qui s'est passé pendant le procès, à l'intérieur de la salle du procès, mais sur les bancs des journalistes. Et cet article, signé d'une certaine Marie Barbier, nous parle de traitement de faveur pour son confrère Nadir Dendoun. Celui-ci était assis au milieu de tous les autres journalistes et il est le seul à qui un flic est venu au début de la séance demander de justifier d'une carte de presse. Un incident a émaillé lundi matin le procès donc du flic Damien Sabounjan qui est jugé jusqu'à vendredi devant la cour d'assises de Bobigny pour avoir abattu en 2012, ça je vous ai déjà raconté. Et donc, ambiance déjà assez tendue entre la famille de la victime et les forces de l'ordre qui sont venues soutenir leurs confrères. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un policier ne trouve rien de mieux que de procéder à un contrôle d'identité très visiblement au faciès au sein même de la salle d'audience. Donc deuxième jour du procès, témoignage des experts, le flic arrive, donc vers les bancs réservés à la presse, et il s'adresse directement à Nadir Dendoun en lui demandant s'il peut justifier de sa carte de presse. Ce journaliste qui est par ailleurs, par exemple, ça lui arrive de faire des piges pour l'Humanité, là on le sait parce que l'article que je lis sort de l'Humanité, qui est aussi écrivain, documentariste, et il couvre ce procès pour un journal qui s'appelle Le Courrier de l'Atlas. Et donc Nadir Dendoun répond aux flics « Pourquoi vous demandez qu'à moi et pas à mes confrères ?» Les autres journalistes commencent aussi à poser des questions, mais l'audience se poursuit et l'avocat de la défense, dont le banc se trouve juste devant celui de la presse, réclame le silence. L'incident s'arrête là sur le moment. À la suspension de l'audience à midi et quart, les journalistes vont demander aux flics pourquoi est-ce qu'il a fait ça, quoi. Et lui, il assume son geste et il dit c'était le seul journaliste qui était là et que je ne connaissais pas, les autres sont des habitués de la cour d'assises. Bon ben c'est faux, parce que la fille qui écrit l'article que je suis à peu près en train de vous lire, Marie Barbier, elle, c'était la première fois qu'elle couvrait un procès d'assises, c'était la première fois qu'elle y allait et elle n'a jamais été contrôlée. Nadir Dendoun raconte que ça fait 10 ans qu'il fait ce métier et qu'il est contrôlé en permanence. Ça lui est même arrivé une fois alors qu'il portait une caméra de France 3.
Et oui, il y a plein de manières de présenter ses vœux. Alors, pour ma part, je connais plutôt la version, donc se prendre dans les bras entre potes ou s'embrasser, se la souhaiter entre collègues, envoyer quelques mails aux potes un peu loin. J'imagine que vous faites un peu pareil ou vous avez peut-être d'autres trucs.
Ah, la petite carte de vœux à la grand-mère.
Ah oui, il y a aussi la petite carte de vœux à la grand-mère.
Ah, les textos, c'est gratuit. Je suis radin.
Et donc là, voilà un exemple flagrant qu'on ne vit pas dans le même monde que nos dirigeants. Écoutez plutôt, il s'agit de notre Premier ministre, donc Valls, qui a envoyé un petit carton de 2 pages à ses connaissances aux frais des impôts collectifs. Donc, d'abord, je suis content de ne pas faire partie de ses connaissances, car il est super morche, le truc. Alors, c'est...
Ah, mais toi, t'as rien reçu.
Bah ouais, est-ce ouais, je l'ai vu dans un article, là. Non, non. Alors, je vous le décris. Vous imaginez la statue de la République sur fond bleu, des petits points bleu, blanc, rouge un peu partout, quelques drapeaux tricolores. Vous voyez, ça n'avait pas très envie, quoi. Et ces mots, l'exigence et l'espoir, c'est la République.
C'est Emmanuel.
Voilà, donc ça fait super envie. Et donc, le Canard enchaîné a mené sa petite enquête et l'a divulguée aujourd'hui, 13 janvier, et a révélé que pour faire réaliser cette carte de vœux, je dis réaliser, je ne dis pas l'expédier par la poste, le service d'information du gouvernement a déboursé la coquette somme de 36 480 euros.
Ouais, fallait un sacré graphiste, je pense.
Wow.
Donc, le Canard fait le compte en comptant large, à raison de 4 000 exemplaires expédiés donc aux élus, patrons, syndicalistes, journalistes, potes. Chaque carte a donc coûté 9,12 euros. Et donc ça, bien sûr, c'est sans compter les frais d'impression, de mise sous pli, d'expédition. C'est juste pour la réalisation. Donc c'est l'agence Publicis qui a été chargée de la chose. En tout, 66 projets ont été élaborés. Avec la... Non mais c'est hallucinant. Avec l'intervention de 5 artistes. Et certains n'ont pas été retenus. D'autres, donc ça, vous voyez, c'est Valls, vous voyez, la petite carte arrive... Dans le bureau de Valls, et là Valls regarde et dit non, c'est à chier, faites-en une autre. Et alors là, il y a un autre artiste qui goûte un peu pour essayer de réaliser un truc. Voilà. Bref. Donc certains n'ont pas été retenus et d'autres ont fini sur le site internet de Matignon. Et donc cette carte toute simple, mais à 9 euros l'unité. Voilà, voilà.
Écoutez, à tout moment, venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sympa, ces poussées-là. On traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Et voilà, alors on commence cette rubrique « Il faut que ça se sache ». Au Danemark, c'est un peu le buzz d'aujourd'hui, car c'est aujourd'hui, mercredi, que le Parlement danois se penche sur une nouvelle version d'un projet de loi plus que polémique, et vous allez comprendre pourquoi. Le texte en question stipule que quand les réfugiés arriveront au Danemark, leurs valises seront désormais fouillées par la police afin de voir s'ils ont de l'argent ou des objets de valeur. Le cas échéant, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les forces de l'ordre se saisiront des biens. Tout simplement. L'objectif annoncé de cette mesure, complètement incroyable, est que les réfugiés financent eux-mêmes leur nourriture et leur hébergement le temps du traitement de leur demande d'asile. Voilà, c'est très rationnel. Ils pourront quand même garder avec eux une somme allant jusqu'à 10 000 couronnes danoises, qui représente 1 300 euros à peu près, ainsi que les bijoux ayant une valeur sentimentale, mais vraiment sentimentale, comme par exemple une alliance ou une médaille. Après avoir présenté une première version de ce projet de loi en décembre, le gouvernement danois, qui est de droite, hein, bon, franchement, je le précise comme ça, mais les autres auraient pu faire pareil, je pense, d'ailleurs, on va voir la suite, vient de trouver un accord justement avec le principal parti d'opposition sur cette nouvelle version du texte. Pour s'assurer le soutien des sociodémocrates, le gouvernement, qui est minoritaire, a dû renoncer à inclure justement les alliances dans la liste des objets saisis par la police. Et c'est uniquement à ça qui va faire qu'a priori le texte de loi va être accepté. C'est uniquement ça qui fait la différence entre la gauche et la droite. C'est quand même un peu édifiant, non? Enfin bref.
Mais surtout, comment ils vont s'y repérer? Parce que quand même, comme les réfugiés viennent d'à peu près partout dans le monde, il n'y a pas que comme coutume de foutre une bague au doigt pour dans les trucs de mariage. Du coup, il doit y avoir tout un tas de trucs suivant les pays d'où tu viens et tout, comme trucs sentimentaux. Du coup, ils sont un peu dans la merde.
Tu vas extrêmement loin dans le questionnement des différentes coutumes à travers le monde. Tu vas voir que ce faut que ça sache, n'est pas du tout, justement.
Juste, j'imagine le douanier faire la différence. Genre, ah, mais là, quand même, c'est pas une alliance. Non, je suis désolé, c'est un collier, c'est pas une alliance.
Ah oui, non, mais oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est évident, ouais, complètement. En tout cas, bon, à l'étranger, bien sûr, la proposition a été très fortement critiquée, même si c'est facile de critiquer le Danemark en général. Mais par exemple, le site américain The Daily Beast fait un parallèle avec l'Allemagne nazie, par exemple. Mais pour le premier ministre danois, que je vais juste dire qu'il s'appelle Rasmussen, parce que le reste des prénoms avant, je ne vais pas y arriver. Du coup, qui fait partie du Parti libéral, il s'agit d'un malentendu. Bien entendu, puisque dans une société comme le Danemark, et là je le cite, où nous avons des droits universels, il faut s'en sortir seul si l'on peut. Et on est aidé si on en a besoin. A-t-il déclaré donc pour légitimer ce gros racket d'État et le traitement dégueulasse fait à des personnes qui ont déjà tout abandonné pour fuir leur pays.
Il faut que ça se sache.
Et on va en Allemagne maintenant pour faire un petit retour sur cette un peu incroyable affaire des violences à Cologne du jour de l'an. Alors en fait, il y a la suite de la vague d'agressions sexuelles et de vols qui ont eu lieu lors du réveillon à Köln en Allemagne et qui a été beaucoup attribué en grande partie à des migrants. Le débat sur la coexistence avec les réfugiés continue de faire rage dans le pays. Alors bon, c'est un peu difficile de savoir quoi penser de cette info. Il semble qu'il y ait eu 500 plaintes pour violence après la nuit du réveillon, dont 40% pour viol. Ici, il y a des gens qui parlent d'actions planifiées, mais il n'y a aucune preuve de rien. Il semble qu'en tout cas, il y ait près d'un millier d'hommes, alors là je cite, d'origine arabe et maghrébine, qui s'étaient rassemblés devant la gare de la ville et qui soient à l'origine des faits. Il est difficile d'avoir du recul sur cette histoire qui est presque constamment traitée d'un point de vue plus qu'à droite, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, en tout cas, ça fait les choux gras d'une partie des politiques et des médias qui voient une occasion d'attaquer l'accueil des migrants et donc Merkel et sa politique, etc., etc. Ça fait aussi les choux gras des FAF qui attaquent eux directement les migrants. Il y a eu plusieurs dizaines d'agressions dans la ville, des appels à ratonnades en centre-ville et des manifs dans tout le pays. Bon, moi perso, je suis un peu perplexe sur cette histoire, que je trouve un peu incroyable, un peu vide de sens. et qui tombe surtout tellement à pic qu'elle en est presque suspecte et que je reviendrai peut-être presque conspirationniste. Donc, je ne vais pas parler plus de ça. Mais par contre, je vais juste rappeler vite fait quand même que il y a déjà des dizaines d'agressions qui sont dénombrées tous les ans à Munich pendant la fête de la bière. Des dizaines et des dizaines tous les ans. Et que quand même, le Spiegel rappelle qu'il y a près de 60% des Allemandes qui déclareraient avoir déjà été harcelées sexuellement en 2004. Et il est impossible que ces agressions n'aient été que le fait d'hommes étrangers originaires d'Afrique du Nord. Mais par rapport à cette histoire, ce qui sera le plus intéressant, eh ben, c'est d'étudier 20 minutes, car souvent, c'est vraiment très intéressant. Puisque du coup, 20 minutes a fait un topo des différentes mesures mises en place dans différents pays d'Europe pour prévenir ce qu'il semble cibler comme le problème du sexisme des migrants. Alors, on commence par la Norvège, qui est le pays précurseur et vanté comme tel par toute l'Europe, puisqu'elle a mis en place des cours après une vague de viol en 2009. L'objectif, c'est d'aider les demandeurs d'asile à trouver leur repère dans un pays dont non seulement la langue et la géographie, mais aussi les mœurs sont un peu étrangères. Du coup, c'est basé sur le volontariat, c'est financé par le gouvernement, et ces formations, s'inscrivent à un programme d'introduction imposé par les autorités. Les participants, j'ai l'impression d'une espèce de théâtre forum comme ça, où ils peuvent y exposer les scènes de la vie quotidienne qui les ont surpris, etc. Où sont abordés les codes socioculturels, l'égalité homme-femme, etc. Alors ça, c'est présenté comme l'innovation trop la classe, et personne ne trouve que proposer ça uniquement aux migrants et pas aux Norvégiens, c'est quand même profondément raciste, et que c'est aussi une négation du vol dans tout ce qu'il a du viol, dans tout ce qu'il a de systémique, de répandu dans tous les pays, comme ça, partout.
Mais parce que c'est un truc qui est vraiment visé aux violences sexuelles.
Et bien, largement, mais pas que, mais largement axé là-dessus, en fait, du coup. Et alors, comme c'est super, et ben la Belgique annonce vouloir suivre ce modèle. Nous allons copier le modèle norvégien et introduire ces cours dans les prochaines semaines dans tous nos centres d'accueil, a expliqué un membre du parti nationaliste flamand. Et ces cours pourraient aborder plus largement les valeurs européennes ou encore les règles de comportement qui seront obligatoires cette fois pour les migrants non européens. Alors quand même, l'initiative n'a pas suscité l'enthousiasme de la ministre des droits des femmes et de l'égalité des chances dans la partie francophone de la Belgique, qui parle d'un racisme à peine déguisé. Alors merci à toi, hein, ça fait du bien de l'entendre parce que tout le reste du temps, tout le monde s'extasie et c'est vraiment horrible. Le Danemark, lui, on y revient, il débat sur des cours d'origine sexuelle, des cours d'éducation sexuelle, obligatoires. Le Danemark s'interroge sur la pertinence d'inclure un modèle concernant les relations sexuelles consenties à ces cours de danois à destination des demandeurs d'asile, quand même. Ensuite, mi-décembre, l'Autriche a commencé à diffuser des brochures à destination des migrants, les informant des règles en vigueur dans le pays. En matière d'égalité, elle rappelle ainsi que les femmes et les hommes ont les mêmes droits en Autriche, ou qu'en Autriche, une femme peut décider si et avec qui se marier. C'est quand même vraiment bien de le rappeler à ces pauvres bougnoules qui violent tous les matins au réveil dans leur pays avant de boire un café. En Allemagne maintenant, alors là du coup c'est le New York Times qui en parle, il y a eu plusieurs trucs un peu bizarres, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des cours de comportement qui sont expérimentés dans un centre pour adolescents migrants en Bavière. En octobre, les conseils du maire de la commune de Hardheim pour aider les migrants à s'intégrer a fait les gros titres notamment. Ces préconisations allant de l'apprentissage de la langue à celui de la propreté, en passant par le respect de la propriété privée et des personnes, les jeunes filles étant incommodées qu'on leur demande leur numéro de téléphone et ne voulant pas se marier avec tout le monde. Et on va finir par le quotidien Bild, qui est toujours très très fin, vous le savez, et qui a, à la même période, publié une édition uniquement en arabe, où les articles de la loi fondamentale étaient inscrits et expliquant pourquoi ils sont, dans le pays, supérieurs aux textes religieux. Alors voilà, ça, c'est l'Europe.
Le collectif des étudiants et étudiantes étrangers de Lyon sans papier et solidaires a lancé une pétition pour demander la régularisation de tous les étudiants sans papier. Lancée il y a une semaine, la pétition a déjà recueilli 260 signatures. Alors, on peut lire dans l'appel, là je vous ai lire un tout petit extrait. Nous sommes étudiants et étudiantes ou non, ou nous nous battons pour le devenir. Nous étudions à l'université Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et à Saint-Étienne. Nous sommes venus pour étudier, pour fuir la guerre, pour rejoindre notre famille, pour travailler. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir reçu une obligation de quitter le territoire français. Aujourd'hui nous sommes
tous et toutes sans papiers. Nous vivons dans la précarité, nous n'avons pas le droit de travailler, d'avoir un logement. Notre quotidien se vit dans la peur d'être arrêté par la police et d'être expulsé. Nous ne vivons plus en liberté. Alors on ne peut que vous inviter à aller signer cette pétition sur change.org. Alors j'ai pas l'adresse exacte, mais en tout cas sur rebellion.info vous trouverez le rappel avec un lien qui renvoie directement sur la pétition. Et il vous encourage vivement à laisser votre adresse mail quand vous signez cette pétition pour pouvoir être informé des mobilisations et actions à venir afin que la solidarité puisse s'exprimer de manière plus active.
Et on va à Paris maintenant, une petite histoire qui a commencé il y a quelque temps, il y a un mois, quasiment jour pour jour. C'était le mardi 15 décembre, sans réquisition du procureur, sur simple lettre d'une dénonciation, une lettre de dénonciation calomnieuse d'Adoma. Alors Adoma, c'est un gestionnaire et propriétaire, c'est l'ex-Sonacotra en fait, ce qui parle beaucoup plus, je pense, à la majorité des gens qui nous écoutent. Du coup, sur cette lettre de dénonciation, eh ben, la police a bloqué la rue et le foyer, pénétré dans le foyer avec des chiens, cherchant on ne sait quoi. C'est introduit jusque dans les chambres, a fait attendre ceux qu'elle a poussés dehors plusieurs heures sous la pluie, et contrôle les papiers de tout le monde. Elle n'a rien trouvé de particulier, mais elle a quand même embarqué plus de 20 personnes sans papiers qui sont placées directement en centre de rétention. Quelques jours plus tard, le fameux JLD, dont on parle souvent, le juge des libertés et de la détention, confirme le maintien en rétention. Mais de quoi les travailleurs immigrés résidents de ces foyers se sont-ils rendus coupables? Et bien depuis longtemps, ils ont des revendications pour améliorer leurs conditions de vie dans des bâtiments qui donnent de nets signes d'usure, c'est le moins qu'on puisse dire. Non seulement Adoma refuse de faire des travaux demandés, mais en plus, en août 2014, elle a fermé la cafétéria et la cuisine collective sans prévoir de moyens alternatifs pour que les résidents puissent continuer à cuisiner et à manger en groupe. Face à ce refus de la concertation, les résidents décident alors de faire une grève des loyers. Alors ça, forcément, ça ne plaît pas. Adoma n'accepte pas le rapport de force qui s'est instauré dans le foyer, ni la solidarité, et joue la carte de la division. Une quinzaine de résidents ont été assignés au tribunal d'instance. Le juge, à plusieurs reprises, n'a pas condamné les victimes d'Adoma, ni pour fait de grève, ni en prononçant leur expulsion. Alors qu'un jugement sur le fond est attendu pour le 21 janvier 2016, dans quelques jours, une semaine, là, Adoma préfère visiblement la provocation et a fait envoyer la police. Assoiffé de vengeance, Adoma a fait bloquer les comptes bancaires du comité des résidents. Du coup, voilà, qui semble criminaliser les actions des résidents et rêve visiblement de l'habitant docile. Tout ça, bien sûr, a été largement facilité par l'état d'urgence dans plusieurs petit ressort de loi que j'ai pas développé ici, qui était plus loin dans l'article, que vous pouvez retrouver sur le site du Justi. Et on finit cette rubrique par Calais, où Eurotunnel a décidé d'inonder la France. En septembre, au nom de la sécurité du tunnel sous la Manche, il y avait plus de 100 hectares de végétation qui avaient été rasés autour de l'entrée du tunnel. Il fallait en fait faire place nette pour la vidéosurveillance et enlever toute possibilité pour les migrants de se cacher et qu'ils soient pas tricards comme ça. Ce changement radical du paysage a permis du coup une vue dégagée sur plus de 29 km de barrières de haute sécurité. Et voilà que maintenant elle s'accompagne d'une nouvelle trouvaille, l'inondation volontaire des terrains. Le terminal, et là je cite Eurotunnel, le terminal qui est surélevé est construit sur une zone marécageuse. Depuis la construction du site, un système de drainage avec des water gangs, ça c'est des canaux de drainage en fait, tout simplement, existe. On utilise ce réseau pour créer des obstacles naturels qui empêchent l'accès aux clôtures. Alors voilà, du coup le terminal ultra surveillé est devenu une espèce de forteresse, puisque les fossés qui ont été élargis forment des douves autour du château fort, comme ça là. Il n'y a pas encore de bassine d'huile bouillante, mais ça ne devrait pas tarder. L'enjeu économique est taille, bien entendu, mais Eurotunnel avance surtout un enjeu humain, car le terminal compte ses migrants morts, c'est vrai qu'il y en a eu 12 du coup, au total pour l'instant. Et c'est là où leur discours est splendide d'hypocrisie. Car le système anti-intrusion ne s'arrête pas là. Au contrôle infrarouge ou par ondes millimétriques passives, aux clôtures électrifiées et aux scanners, s'ajoutera bientôt, je vous le donne dans le mille, la plantation de haies défensives avec des épines. Alors là, du coup, c'est un retour à la nature, en quelque sorte. Hein. C'est que donne Eurotunnel, qui est soucieux de préserver l'environnement, l'occasion de remettre en avant une conscience écologiste, un petit peu oubliée peut-être, et qui montre bien qu'elle se soucie des migrants qui tenteront de toute façon toujours de traverser la Manche d'une manière ou d'une autre. Peut-être du coup, sous-entendait-il, planter des rosiers pour leur offrir des fleurs, ou des mûriers pour les cueillettes à l'automne. Restons pleins d'espoir, après tout, Eurotunnel, c'est bien ce qu'il fait.
Il faut que ça sache.
Et alors, oui, il y a plein de... Là où j'ai rencontré beaucoup de personnes sexistes, homophobes, qui essayent de draguer tout le monde, et ben c'est à Notre-Dame-des-Landes.
Mais bon. Je veux dire qu'il y a des migrants syriens à Notre-Dame-des-Landes.
Non, je veux dire que les blancs,
Afghans, c'est souvent
ils
les
sont super relous. Bref, un petit point sur Notre-Dame-des-Landes, puisque...
Très belle intro, en tout cas.
Depuis donc, samedi, il y a eu à Nantes donc une énorme manifestation. On ne va pas revenir en détail, les médias en ont pas mal parlé. Et aujourd'hui était donc le procès des historiques de la ZAD. Et donc, il y avait des milliers de personnes, des milliers de flics aussi, mais des milliers de personnes qui sont venues au tribunal. Et apparemment, ça a été assez fou, tous les gens qui se sont déplacés. Et donc, l'audience vers 15h, c'est fini. Et tout le monde a le regard tourné vers le 25 janvier, puisque ça sera la décision du procès qui va tomber le 25 janvier. Et donc, il y a des personnes qui déclarent, d'ici là, nous allons maintenir la pression par des actions surprises. De nombreux tracteurs de Loire-Atlantique rejoindront la grande manifestation organisée ce week-end à Rennes. Et ça, c'était Bruno Gris, qui est membre du collectif Copain 44, donc un collectif d'agriculteurs. Et également, l'AG extraordinaire d'hier appelle à rejoindre la manif à Rennes. Et je voulais citer une petite citation là de Dominique Fresneau de la CIPA. Parmi les personnes menacées d'expulsion, il y a mon père, âgé de 88 ans. Il y a aussi des familles avec enfants. Si l'expulsion est prononcée immédiatement, ils pourront avoir... quitter leur maison avant le week-end. Du coup, ça, ils ne savaient pas que c'était le résultat serait le 25 janvier. On ne laissera pas faire, on dressera des barricades s'il le faut. Voilà pourquoi je voulais lire cette petite déclaration, parce que je crois que c'est vraiment l'ambiance qu'il y a à Notre-Dame, là, ben, des habitants historiques, mais aussi de tous les gens qui sont venus y habiter en mode soutien. C'est-à-dire que c'est même pas tant une histoire d'aéroport qu'une histoire que des gens doivent rester habiter sur cette zone, et des gens qui y habitent depuis toujours, et que ça leur semble tellement pas possible de pouvoir partir de leur maison, que ça c'est clair, ils vont les défendre. Et ça va être plutôt et dur mais et drôle là, quand les flics qui se pointeront, s'ils osent se pointer. Voilà, on peut avoir une petite note optimiste. Et donc, pour ce qui est de Lyon, les rendez-vous à noter, donc et c'est ça où ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à Lyon il y a eu un rassemblement devant le tribunal aujourd'hui en soutien au procès, mais également dans des dizaines de villes il y a eu plein de rassemblements, beaucoup de comités soutien locaux ont joué le jeu. Et donc là, il y a un truc organisé samedi 16 janvier à Mornan à 10h30, départ d'un convoi tracteur vélo. Et 14h, arrivée du convoi à la gare d'Oulin. Et une mobilisation régionale est attendue à ce moment-là. Donc le programme est à venir sur rebellion.info. Donc suivez l'info là-dessus. Et dernière info sur Notre-Dame.
Juste pour compléter, je crois que s'il y a un truc qui se passe du coup entre Normand et Oulin, c'est qu'aussi, il me semble, je ne voudrais pas dire de conneries, mais qu'il y a un projet de rocade ou de grosse autoroute dans le coin, et que du coup c'est aussi les gens ils se mobilisent aussi par rapport à ce truc-là, du coup ils se rejoignent, ils se joignent à la lutte de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi ce côté-là.
Oui, il y a les enjeux locaux de la rocade. Et pour finir, c'est que demain l'émission Les Paysans et Paysannes dans la lutte des classes vous propose un retour sur ces derniers jours de lutte pour la défense des terres et des habitantes à Notre-Dame-des-Landes. Donc ça sera de 18h à 19h, et je vous dis un peu le programme. Il y aura un entretien avec un membre de Copain, donc le collectif des paysans indignés par le projet d'aéroport. Il y aura un retour sur la manif donc du 9. Et il y aura aussi un retour sur les actions locales et agenda à venir. Donc voilà pourquoi on ne rentre pas dans les détails ce soir, parce qu'une émission est consacrée une heure demain à ça, donc de 18h à 19h.
Sur Radio Canu, bien entendu.
Et il est 19h57, le temps de laisser place à Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes de s'installer. On vous balance quelques minutes de bande continue. Merci de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine.
Ciao.